I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100pourchanvre.com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASUEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Comment ça va, mon cher Rust?
Ça va impeccable. Et toi, comment ça va?
Je suis explosé. Les gars, je suis explosé. Et Rust pensait que c'était une blague au début, mais en tout cas, déjà, on voulait vraiment vous remercier pour... l'accueil que vous avez réservé à nos savons Onay, franchement, on est vraiment surpris. Quand j'avais dit qu'il fallait se calmer sur les commandes, Ross pensait que c'était une blague, mais non.
J'en
peux plus, les gars. Parce que bientôt, là, on va poster les stories et tout. On fait nous-mêmes les préparations de commandes et on vous lâche à chaque commande, un petit mot. Donc, et là, Ross va venir ce soir pour s'y coller un petit peu. Il va voir que c'est quand même du sport. Mais en tout cas, force à tous ceux qui font des préparations de commandes.
Je sais même pas comment tu fais ça pour faire ça. En plus du reste, ça n'a pas de sens.
Parce que là, on découvre finalement la vraie vie, la vie sur le rinté. Et voilà. Mais en tout cas, merci à tous parce que on espère que vous allez apprécier parce que c'est pas tout, mine de rien, d'avoir pas mal de commandes. Faut ensuite que les gens apprécient. On espère que vous allez apprécier les savons autant que nous. Voilà. Sinon, de toute façon, si vous n'appréciez pas, Ross viendra chez vous pour s'excuser. Alors, aujourd'hui, parlons de Francis Ngannou, mais avant ça, n'oubliez pas Road to 100 G's plus que jamais. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Ça se passe ici. Let's roll, est-ce qu'on lancerait pas le générique, Rusty?
Let's roll it.
Swear. Parlons de Francis Ngannou hier, qui a été particulièrement loquace dans une interview accordée à Ariel Helwani. Donc il a expliqué sa situation concernant le combat d'unification face à Cyril Gane qui est prévu pour le 22 janvier prochain à Anaheim en Californie ou à Las Vegas, mais aussi sur sa situation avec l'UFC, puisque oui, il ne reste plus qu'un seul combat sur le contrat de Francis Ngannou, contrat qui devait prendre fin le 22 mai dernier.
Et ce qui est incroyable, c'est que c'est donc il n'y a plus qu'un combat sur le contrat, et c'est Francis qui a pris et son équipe et son management qui ont pris la décision de ne pas accepter ce que leur proposait l'UFC en termes de prolongation de contrat. Et effectivement, dans cette interview qui est sortie il y a quelques heures de Ariel Helwani, Francis dit les conditions de la prolongation ne nous satisfaisaient pas en fait, parce que Francis dit le truc, c'est que sur les dernières années, j'ai tellement peu combattu que, en fait, moi-même, c'est ce qu'il dit en paraphrasant, mais moi-même, ça m'a mis dans la sauce, même financièrement, parce que j'ai vraiment très peu combattu par rapport à ce que je pensais enquiller en termes de combat. Et ce qui fait que maintenant, en fait...
Il a dit qu'il avait dû emprunter de l'argent pour ses camps d'entraînement.
Il a dû, voilà, et on en est donc effectivement à là, quoi. Il a dû, alors peut-être que c'est parce qu'il a fait des investissements et que du coup, lui, il avait calqué les dépenses sur ce qu'il pensait qu'il allait, rentrer également. Mais du coup, le fait est que comme il n'a vraiment pas eu de combat et que l'UFC ne lui en proposait pas suffisamment, eh ben, effectivement, il s'est retrouvé dans une situation vraiment délicate. Et du coup, Francis disait, le problème, c'est que maintenant que je suis champion, je peux pas juste accepter la première proposition venue. Il faut que ce soit quelque chose où je sente que ça me mette vraiment, c'est même pas que ça me mette en valeur, c'est que ça me rétribue à ma juste valeur. Et donc, il a choisi de ne pas prolonger pour l'instant son contrat. Ce qui, arrête-moi si je me trompe, Guillaume, mais c'est quand même vachement risqué, quoi.
C'est risqué pour Francis, mais il est dans une situation où l'UFC garde la main parce qu'on l'avait évoqué, ça je sais plus, c'était pour Conor McGregor ou un autre combattant. C'est vrai que quand les combattants comme ça misent directement sur eux, l'UFC garde la main puisque l'UFC peut à chaque fois égaler, je crois, n'importe quelle autre offre. Donc c'est finalement, si, imaginons Francis venait à partir par exemple au Bellator, c'est que l'UFC aurait jugé l'offre du Bellator qui n'était pas en lien avec la valeur qu'il serait prêt à mettre, enfin, qu'ils perçoivent de Francis Ngannou, donc ils le laisseraient partir. Donc en soi, même quand quelqu'un est free agent, c'est l'UFC vous laisse partir. Mais par contre, en cas de victoire face à Cyril, il aurait toutes les cartes en main, mais s'il s'incline contre Cyril, là c'est très très chaud, parce que l'UFC, clairement, ils peuvent très bien faire comme ce qu'ils font depuis 2 ans, quoi. C'est à savoir plus ou moins le mettre au placard, tu vois.
Ben ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est... En fait, d'aucuns diraient que c'est couillu, mais je pense qu'en fait, à ce stade, même si, comment dire, l'état des couronnes de Francis n'est absolument pas à mettre en doute, c'est absolument pas là ce qui est la question. Mais je me dis, en fait, là, je pense même pas que ce soit une histoire de couille. Je pense que c'est vraiment une histoire de...
De principe, je pense aussi.
Et c'est ça. Ouais. C'est une histoire de principe. Je pense que vraiment là, Francis, il est en mode, je peux pas accepter, en fait. Je peux pas accepter ce que vous êtes en train de me proposer. Et donc, voilà, je pense que c'est juste, il n'a pas d'autre choix que de, en gros, faire tapis et de faire quitte ou double sur le prochain combat, quoi. Mais effectivement, c'est comment dire, le combat, il va être très, il y a des, enfin là, on ne sait pas ce que donnera le combat sportivement, mais c'est pas, alors c'est pas pour manquer de respect à Derek Lewis, mais tu sais, lorsqu'il y avait eu, par exemple, le combat entre Daniel Cormier et Derek Lewis. Bon, c'est Daniel Cormier qui défendait sa ceinture. Il l'a fait en étant blessé et il l'avait dit à demi-mot avant et il l'avait dit après. Bon, j'étais clairement flingué. Mais donc, ce qu'on en déduisait tous, c'est que il savait que il allait tranquillement dominer Derek Lewis.
Il avait surtout précisé que dans ce délai de 3 semaines qui séparait de l'UFC 229 de l'UFC 230 où il y avait Cormier-Lewis, il n'aurait pas pris Daniel Cormier. Non, il n'aurait pas pris Stipe Miocic pour la revanche avec 3 semaines de préparation.
Voilà. Et donc, dans ces cas-là, tu te dis, OK, là, bon, on peut commencer à tenter des trucs, on peut commencer à... Là, c'est pas pareil. Je pense que là, il n'y a pas un tel déséquilibre qui fait que Francis serait serein, à l'idée de gagner, quoi. Donc, c'est Cyril Gane en face, c'est même pas un sacré gros morceau, ça va être un des plus gros combats, de la carrière de Francis. Ça a été beaucoup de gros combats, mais en sportivement, le risque est énorme parce que le challenger est énorme. Et donc, je sais pas comment toi tu le sens et je sais pas comment le sentent les gens, mais personnellement, je suis presque, c'est pas triste pour Francis, mais ça me fait un peu chier, quoi, qu'il soit, entre guillemets, dans une situation comme celle-là où, ben, il est presque forcé de devoir jeter tous ses pions et y aller à fond en prenant énormément de risques, quoi.
Ce que Fernand nous avait expliqué, c'est qu'il avait déjà été dans cette situation-là avant de reprendre Curtis Blaze.
Je savais plus si on avait le droit de le dire ou pas.
C'est ça. Et il nous avait expliqué dans King Energy que Francis avait déjà été dans cette situation-là. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que bon, il peut y avoir de part et d'autre, hein, aussi bien du côté de l'UFC que de Francis, certains problèmes. Mais c'est vrai que de se dire ce qui pourrait être, dans le sens, tu vois, champion africain, que l'UFC investisse là-dessus, ça pourrait être vraiment une figure de proue. Et au moment où il a pris la ceinture face à Stipe Miocic, je pense que tout le monde se disait, enfin même les réseaux sociaux, c'était en mode le Mike Tyson du MMA, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et visiblement, il y a eu des difficultés entre, d'un côté, Francis qui voulait le combat contre John Jones, qui tardait un petit peu, en tout cas du point de vue de l'UFC, à prendre le combat contre Derek Lewis. L'UFC a fait « Ok, on passe à la suite », comme ce qui s'était passé après le combat, le premier combat contre Stipe Miocic. Et là, on se retrouve encore dans une situation où soit Francis perd, et là, finalement, l'UFC aura gagné, mais si Francis gagne, là, je pense que l'UFC sont dans une situation vraiment compliquée, parce que tu peux clairement pas laisser partir ton champion, surtout si ton champion bat Cyril, qui est quand même vu, enfin, il est invaincu, il est vu comme beaucoup, comme le prochain très 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 grand, et je parle pas seulement de la catégorie. Non, là, l'UFC sera dans une situation compliquée, surtout que ton champion, en plus, dit, Ariel Helwani, on n'en avait pas parlé, qu'il a des envies de boxe anglaise aussi.
Ben, il a des envies de boxe anglaise, donc clairement, il est vraiment là, Francis, il est en mode, dès que j'ai une opportunité, une ouverture, ben, j'y vais, en fait, pour la maximiser. Et c'est vrai que ben, c'est aussi ça dont on n'a pas parlé, mais qui était donc dans l'émission avec Ariel Helwani, mais c'est aussi effectivement le fait que La raison pour laquelle il est aussi en mauvais terme, là, avec l'UFC, Francis, c'est que, et malgré tout, il le dit tout en disant, c'est une magnifique organisation, et je pense que, et voilà, il le dit, c'est la meilleure organisation, ils font les choses extrêmement bien, mais, et Francis rajoute, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir, de sentir qu'on me manquait de respect dans la manière dont a été fait le, dont la communication.
Discrédité, il a dit, discrédité. Voilà.
C'est ça, dans la manière dont la communication a été faite au moment où le titre intérimaire a été mis en place. Parce que Francis dit, c'est pas le fait de faire un titre intérimaire qui m'a gêné. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Francis dit, ça, à la limite, ça m'a pas dérangé, je peux le concevoir qu'ils veulent faire un titre intérimaire parce que, voilà, il y a tout le business à côté, il faut que ça tourne, il fallait un pay-per-view, etc. Non. Francis, lui, ce qui l'a vraiment gêné profondément, c'est que j'allais dire l'UFC, mais là, je pense que c'est en l'occurrence Dana White, puisque c'est lui qui a été donc le porte-parole de cette idée-là, mais qui était en gros, et ça c'est la spéciale Dana White, pour mettre un peu la pression aux fighters, c'est de dire, il a fallu avancer, puisque visiblement, Francis Ngannou n'avait pas envie de combattre. Et quand quelqu'un n'a pas envie de combattre, nous, on avance parce que on va pas le forcer. Et bon, évidemment, c'est un move pour mettre un petit peu la pression dans les négociations de la part de Dana White. Et évidemment, mais néanmoins, effectivement, on peut pas s'empêcher de comprendre que Francis soit en mode, respectez-moi au moins un petit peu, parce que évidemment, je pense que personne n'est dupe, personne ne pense que Francis a soit peur de combattre ou qu'il n'a pas envie. Mais c'est juste que Francis était en mode, attendez, j'ai combattu deux fois en 2 ans avant. Maintenant, vous me demandez de combattre pour défendre mon titre littéralement 2 mois après que je l'ai eu.
Je me permets de te couper. Je me permets de te couper parce que déjà là, le son de notre cher Rust est en train de partir un petit peu en cacahuète, mais c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute, pas de souci, Rust. Je suis en train de modifier les réglages. Non, je me permettais de te couper sur aussi quels allaient être les potentiels autres choix de l'UFC concernant l'UFC 265 où il y a eu Cyril Gane contre Derrick Lewis. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire selon toi? Soit sacrifier cette carte-là, soit...
En vrai, là, je suis comme Francis, hein, dans le sens... Pareil, je vais pas dire que ça me dérange pas, parce que c'est vrai que quand même c'est abusé de faire un titre intérimaire.
Je vais pas dire que ça me dérange pas.
Ouais, non, mais parce que voilà, Francis dit que ça ne le dérange pas qu'il y ait eu un titre intérimaire. Peut-être, et c'est sans doute vrai, il le dit, on ne peut que le croire. Moi, ça, je trouvais ça un petit peu abusé, parce que c'est le titre intérimaire, théoriquement, c'est lorsqu'il y a eu l'inactivité depuis genre 1 an, ou qu'il y a une grosse blessure dont on sait qu'elle va se résorber pendant longtemps, etc. Donc l'idée même du titre intérimaire, bon non, en vrai ça me dérange quand même, ça me dérangeait un petit peu. Mais en termes de combat, de mettre Francis contre Derrick Lewis, ça avait énormément de sens. Il fallait une grosse affiche, donc de toute façon c'est normal. Le fait qu'il demande à Francis s'il peut combattre directement 2 mois après, ça me dérange pas non plus, parce que tu vois, du point de vue de Dana White et de l'UFC, alors si jamais il y a un beef, Dana White va très bien pouvoir répondre, et ce sera vrai aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment les différents angles. Dana White pourra très bien dire, attends, donc ça veut dire que Francis Ngannou, il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait combattre, mais c'est simplement qu'on n'avait pas de combat pour lui parce qu'il éclatait tout le monde, et au moment où on lui propose des combats en veux-tu en voilà, il dit non. Donc tu vois, il pourra aussi le tourner comme ça. Et ce qui sera, entre guillemets, vrai. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais, et là où je suis absolument Team Francis, c'est pourquoi rajouter, de toute façon, si Francis ne veut pas combattre, on va pas le forcer. Je sais plus comment est-ce qu'il avait tourné à l'époque les mots exacts qu'avait choisi Dana White, mais c'était clairement ce qu'on comprenait, c'est le mec a pas envie, il est en train de faire sa tournée en Afrique, là il a la tête à autre chose, il est pas dedans, il est pas chaud, vas-y on passe à autre chose. Et je pense que c'est ça que Francis n'a pas du tout apprécié, ce côté effectivement, parce que c'est vrai que ça discrédite Francis, c'est vrai. Et ça je peux le comprendre, tu vois.
Aïe, 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 en tout cas, affaire à suivre. Le combat pour l'unification est prévu le 22 juillet prochain aux États-Unis, mais faudrait quand même, c'est Dana White qui l'avait dit en conférence de presse, je crois qu'il avait aucun problème avec Francis, mais que c'était plutôt avec le management du champion actuel de l'UFC qui avait des soucis. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce serait quand même bien que les deux côtés se rapprochent un petit peu, parce que pour l'avenir de l'organisation, ça fait pas... je trouve que c'est dommage, tu vois, même... qu'on approche d'un combat de cette envergure-là et qu'on soit, j'allais dire que ce soit pollué quasiment par des discussions de Francis qui s'entend pas avec l'UFC. On devrait juste être concentré sur, ok, là, pour citer Ross, il y a un putain de banger qui arrive, et donc on devrait juste être hypé par ça, tu vois, plutôt que de se dire, ah, il y a des problèmes de salaire, il y a ceci, il y a cela, enfin, tu vois, même, déjà là, au moins, c'était pas prévu, bien évidemment, mais au moins, l'ombre de John Jones s'est écartée.
Ah bah ça.
Mais de se dire, tu vois, se rapprocher de ça tranquillement, et d'être pleinement juste concentré sur le combat là, parce que je suis sûr que si la situation si ça ne se résout pas, parce que je crois que Francis avait parlé d'un futur, en tout cas, meeting avec Dana White, tous les journalistes vont parler de ça durant l'avant-combat. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si Francis gagne? Alors, votre contrat, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes satisfait de votre paye là pour le combat qui arrive? Tu vois, c'est, enfin, on a plus envie d'entendre d'autres questions quand il y a un combat qui arrive comme ça, de cette envergure-là.
Bah, c'est clair. Et c'est pour ça que ce sera intéressant de voir comment on parle Dana White. L'avantage aussi là, c'est qu'en gros, Dana White, j'ai l'impression que c'est rapport au Contenders Series, mais il fait des conférences de presse tous les deux jours, j'ai l'impression là. Donc, l'avantage, c'est qu'on saura vite et on saura bientôt, je pense, parce que les journalistes poseront probablement les questions à Dana White à ce propos. Mais effectivement, bah, c'est clair que c'est pas le meilleur jour, quoi. Mais j'ai envie de dire, alors, je sais pas si ça va améliorer la situation dans le sens, parce que là, c'est pas le seul truc, tu vois. Il y a eu Masvidal, là, sur cette dernière année et les deux dernières années, le nombre de combattants de très haut profil qui a grosso modo gueulé ou marché à reculons ou fait des leurs parce que il y avait des problèmes de salaire et qui n'estimaient que c'était pas leur juste valeur. Vraiment, j'ai l'impression que là ça augmente crescendo et que ce sont des gens de plus en plus haut profil. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas, mais c'est clair que le fait que le focus soit là-dessus, bah, ça fait un peu chier parce que c'est l'UFC, c'est les numéros uno. Effectivement, on aimerait plutôt parler de l'opposition de style entre l'esthète contre l'ogive nucléaire plutôt que les questions de salaire, quoi.
Exactement, mon cher Rust. En tout cas, vous le savez, rendez-vous l'année prochaine pour le combat, pour l'unification. Big Rusty, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Il y a eu la grosse mise au point là de Francis, qui était quand même assez rare, c'est ce qu'Al Helwani avait dit en interview, qui lui a couru après pour obtenir l'interview. Et là, finalement, il était venu charger le Predator.
J'ai char. Ouais.
See you very soon. Big shout out to my sweet pea, my sweet protein. -38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. See ya.
See ya.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.